Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Que fait-on du plus grand deuil du XXe siècle lorsqu'il habite avec vous et qu'il est devenu, dans la joie et l'angoisse, votre père ? Que vous avez grandi avec ce traumatisme comme si c'était la plus naturelle des choses. Que vous avez cru ne jamais avoir à vous en préoccuper, mais qu'un jour, au détour d'une virgule, ça vous tombe dessus en même temps que l'adolescence de vos propres enfants. Bonjour Laurence Sandrovitch.
Bonjour.
Ce sont des questions qui traversent votre œuvre, Laurence Sandrovitch. Une œuvre dont la première pierre a été cette pièce que nos auditeurs connaissent sans doute, Les cerises au kirsch, itinéraire d'un enfant sans ombre, que vous avez joué en 2011. Et voilà qu'elle se poursuit aujourd'hui avec Faute d'impression, une histoire de traductrice, votre nouvelle pièce, mise en scène par Nafis Allah, que vous jouez en ce moment à Paris, à la Manufacture des Abbesses, en attendant le troisième volet de la trilogie, qui s'intitule Le voyage des parents, et que vous êtes en train d'écrire. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est que cette faute d'impression que vous avez commise ? À quoi renvoie ce titre ?
Alors, c'est un titre qui se comprend de plusieurs manières, c'est pour ça que je l'ai choisi. Faute d'impression renvoie bien évidemment à la faute d'impression d'un livre, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui n'est pas comme il aurait dû être, disons ça comme ça, dans la publication. Et puis ça renvoie aussi à l'impression qu'on fait sur les gens, qui peut être trompeuse. Et ça renvoie aussi bien évidemment à la publication, c'est-à-dire faute d'impression peut aussi être parce qu'on n'est pas publié, qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est aussi le problème de cette traductrice dans la pièce, donc qui est une traductrice qui travaille sans problème, que ça se, au niveau professionnel ça se passe très bien, mais qui a aussi sa propre existence et son besoin d'écrire. Et ce besoin de reconnaissance, et voilà, là, c'est, et la pièce commence là au moment d'éclatement, disons, de ces deux parcours.
Est-ce que vous pouvez nous résumer l'argument sans trop en dévoiler non plus ?
C'est l'histoire d'une traductrice qui fait une énorme faute professionnelle, une faute qu'aucune traductrice ne ferait jamais. Qui n'envoie pas exactement le texte qu'elle était censée traduire à l'éditeur. Et puis, alors je voudrais pas en dire plus vraiment parce que les choses, c'est aussi un tout petit peu quand même, il y a un petit thriller littéraire là-dessous. On le devine assez rapidement, mais je préfère un petit peu garder quand même le mystère. Et ce qui se passe, c'est que en fait, elle reçoit un coup de téléphone extrêmement positif. Et au lieu que ce soit l'explosion de joie, chez elle, ça déclenche un chaos total. Et c'est là qu'on part dans un voyage à la fois intérieur et extérieur, et on comprend ce qui s'est passé, on comprend pourquoi cette femme n'arrive pas à être heureuse, en fait, quand elle devrait l'être. Et ça renvoie à des tas de choses, dont bien évidemment un traumatisme antérieur qui est le traumatisme de sa famille, puisque son père a perdu ses parents à Auschwitz.
Alors, dans votre première pièce, Les cerises au kirsch, il y avait trois voix qui s'exprimaient. Il y avait celle de votre père, donc à l'âge qu'il a, enfin de votre père, du père de, on va dire pour être plus précis, de Fanny Berkovitch, enfin votre personnage, votre double sur la scène. Il y avait donc celle de votre père, celle de votre fils, qui racontait l'histoire de votre père, et celle de votre père enfant.
Absolument.
Et alors là, il n'y a plus qu'une voix. C'est la vôtre, enfin celle de votre personnage. Voilà, comment vous expliquez ce passage de trois à une voix ?
Alors, le questionnement de base est toujours le même. Le questionnement, c'est nous, deuxième génération, hein, puisque on est la deuxième génération, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire qu'on a reçue, qui est la nôtre quand même, puisque c'est celle de nos parents, qui est un traumatisme, qui est une histoire qu'on ne peut même pas comprendre. C'est-à-dire que plus, me semble-t-il, plus on essaye justement de poser les questions, d'imaginer, moins on comprend. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait surtout de ce chagrin immense, incommensurable, qu'on a hérité, qui n'est pas le nôtre et qui pourtant nous fait une boule dans la gorge, dans le ventre, partout, et qui, quelque part, je ne veux pas dire nous bouche l'horizon, mais en tout cas est là à l'horizon, nous bouche, nous pousse, nous vrille, enfin voilà.
Du poison, vous dites à un moment.
C'est du poison.
Dans la pièce, vous avez trempé votre plume.
Oui, absolument. Alors ça, ce sont des choses. En fait, moi jusqu'à il y a quelques années, vraiment je pensais que c'était résolu. C'est-à-dire que moi j'ai vécu dans une famille où les choses étaient, me semblaient avoir été dites. C'est-à-dire que j'ai jamais ignoré que mon père était un orphelin de la guerre. Bon, j'ai découvert ce mot orphelin de la solution finale qui me fait encore des frissons chaque fois que j'en parle. Pourtant c'est comme ça qu'on dit. Et je le savais. Et puis mon père, qui est un homme extrêmement généreux, extrêmement jovial, il disait tout le temps d'ailleurs, et ça revient dans le premier spectacle, moi, mon histoire n'est pas une histoire triste, puisque regarde comment elle finit, vous êtes là, j'ai des enfants, des petits-enfants, tout va bien. Et puis c'est tout à coup, en essayant d'écrire sur d'autres sujets, et en me rendant compte qu'il manquait quelque chose, que je me suis dit, mais... peut-être qu'il y a quand même quelque chose là, un nœud qui ne se défait pas en moi. Bon, je n'ai pas fait de thérapie, peut-être que la thérapie aussi m'aurait aidé à résoudre la chose. Et donc j'ai pris mon père, qui par chance est encore là, et je lui ai dit, écoute papa, raconte. Et il a commencé à raconter tout de suite, comme s'il n'attendait que ça. Il a raconté, alors dès qu'il a ouvert la bouche, moi je me suis effondrée. Mais alors vraiment effondrée en larmes, vraiment, c'était pas du tout une métaphore, je pleurais les larmes de mon corps. Et il a eu l'extrême générosité de ne pas s'arrêter. Il a continué à parler. Et je pleurais. Et il a continué comme si tout allait bien. Voilà. Si on faisait cette traversée ensemble.
Alors, ça,
c'est le sujet de la première pièce. Alors, cette première pièce a été écrite avec, en fait, c'est pas tout à fait l'histoire de mon père. C'est vraiment une tentative aussi de dépasser les choses pour en faire quelque chose, une œuvre quand même, pour en faire théâtre. Et donc, c'était le petit-fils qui interrogeait le grand-père. Et au milieu, il y avait cette génération qui est donc la mienne, qui était en fait représentée par des chaussures rouges, qui ne parlait pas, parce que cette femme, dès qu'elle voulait parler, elle était empêchée par une boule dans la gorge. Donc le petit-fils et le grand-père arrivaient à discuter, et celle du milieu, pas. C'était fait sur le mode comique, hein. C'était pas du tout, je suis pas du tout, enfin c'est pas mon rôle de pleurer, j'essaye, ni de jouer les lamentos. Je pense que là, notre génération, on essaye d'aller ailleurs. Et
on retrouve les chaussures rouges dans
Alors voilà, ces chaussures rouges, donc cette femme empêchée de parler dans la première pièce, prend la parole dans la deuxième pièce, voilà. C'est pas tout à fait la même histoire, mais enfin, elle a quand même ce même passé, c'est le même nom, elle a les mêmes enfants, elle a voilà, on est quand même dans la même famille, on est dans cette même problématique.
La Shoah est beaucoup plus... la tragédie de votre père est beaucoup plus allusive.
J'ai énormément travaillé là-dessus.
Plus,
voilà. C'est parce que c'est ça qui m'intéresse, de nouveau.
Il y a des phrases un peu énigmatiques. Tout ça, c'est à cause des montagnes. Voilà, on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans les montagnes. Il y a l'histoire du passe-montagne, mais on n'en sait pas beaucoup plus.
Oui. Ça, c'est totalement volontaire. Parce que, de nouveau, d'abord l'histoire. Cette histoire-là, je l'ai déjà racontée, comme j'ai pu, avec les éléments que j'avais. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit que ça n'est pas exactement l'histoire de mon père. Parce qu'en fait, il y a énormément de trous noirs. Et les trous noirs, ce sont le poison. C'est ça. C'est-à-dire... Donc, avec la première pièce, j'ai essayé de combler les trous noirs en me rendant compte que c'était totalement impossible. Et donc, j'ai repris ma voix en essayant d'avancer, parce qu'il faut avancer, il faut absolument avancer. Ceci dit, on avance avec ce qu'on a et avec cette recherche de pouvoir marcher avec les deux pieds sur le sol. Et c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai très souvent l'impression qu'on n'est pas enraciné. Je dis « nous » parce que c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose de totalement générationnel. Alors j'espère, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit, je regarde là maintenant la troisième génération, j'ai des enfants qui ont grandi, et je me rends compte que les choses ne sont pas réglées non plus. Alors chez eux, ça c'est pareil, c'est cette angoisse permanente. Enfin bon, je pense qu'on connaît tous ça. Alors il n'y a pas que nous, mais ça c'est vraiment partagé avec tous les gens de ma génération à qui je parle.
Où es-tu maman? C'est ça l'angoisse
Oui, et puis, entre autres, maman t'es où? Et puis où sont ceux... Le téléphone, oui. Quand je dis aux gens, moi j'ai toujours peur du téléphone, tout le monde me dit moi aussi. Il y a cette angoisse automatique, et que je vois mon père, n'en parlant, mon père, mais dès qu'il y a quelque chose, ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors je sais que ça va pas. Je sais que ça va pas. Et c'est toujours ça. Le téléphone sonne, il y a une catastrophe, c'est obligé.
D'ailleurs, votre pièce commence comme ça. Oui. Hein, les mauvaises nouvelles arrivent toujours par téléphone.
Voilà.
J'ai toujours détesté le téléphone, vous dites, instinctivement.
Ouais. Ouais.
Le sous-titre de la pièce, c'est une histoire de traductrice. Alors. C'est un aspect important de la pièce. D'abord, vous êtes traductrice, alors, en particulier du théâtre de Hanor Levin. que vous avez grandement contribué à faire connaître en France. Et la pièce, c'est aussi sur la relation, finalement, entre l'auteur et le traducteur, bon, entre vous et vous-même, d'une certaine façon. Et alors, c'est vous montrer un peu toutes les facettes de cette relation, la complicité, mais aussi, finalement, une forme de subordination, une place, en tout cas, qui est confortable, d'une certaine façon. La quitter expose à certains périls. Et voilà, est-ce que c'est pas ça le sujet de votre livre, c'est-à-dire arriver à changer de place, en fait, finalement
Alors, effectivement, une des grandes questions de la pièce, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de vivre à une place qui n'est pas la sienne ? Et c'est ce qui arrive. Alors, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez partagé, c'est-à-dire qu'un jour, on se dit oh, « Et si je faisais, et si j'osais faire la chose interdite ?» Et peut-être que grâce à ça, la porte qui ne s'ouvre pas, j'arriverai à glisser un petit pied et rentrer. Que ce soit, alors évidemment, les artistes comprennent tout à fait, mais je pense que ça peut être vraiment la secrétaire qui fait tout le travail de son patron et qui ne reçoit jamais de remerciements.
Pour un traducteur, donc, la chose interdite, c'est d'écrire. Auteur.
Un petit peu, quelque part. Je ne dis pas que c'est interdit. En tout cas, c'est quelque chose dont elle n'a pas la légitimité. Mmh. Voilà. Et je pense que la pièce est...
Elle sort de son rôle.
Alors, on adore les traducteurs quand ils restent traducteurs. C'est un métier extrêmement intéressant et c'est une place très, très étrange parce qu'effectivement, on est à la fois auteur du texte en français, en l'occurrence. Mais on n'est pas auteur, puisqu'il y a un auteur, et il y a un auteur qui a écrit le texte, et vraiment, à aucun moment, quand je traduis des auteurs, et puis j'ai vraiment la chance de traduire d'excellents auteurs, donc je ne me mets jamais, je ne m'imagine que je suis l'auteur, ça, jamais. Mais quelque part, on s'approprie ce texte, on est obligé, si on veut vraiment faire un vrai travail, on est obligé de se l'approprier, donc de faire l'éponge, je me sens un peu comme une éponge, pour l'intégrer à l'intérieur et le restituer. C'est quelque chose de très étrange. C'est des processus qui, moi, m'intéressent aussi énormément. Donc, j'avais envie d'en parler parce que c'est un métier vraiment qui n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que j'ai traduit le théâtre de Hanoch Levin, qui est vraiment un immense auteur, et je suis vraiment très, très heureuse de ce qui se passe en France avec son théâtre. Très souvent, dans les critiques, on dit, on cite le texte et tout, mais on n'écrit même pas traduit de l'hébreu part ou texte français de... Mais ça n'arrive pas qu'à moi, hein. Ça arrive aux plus grands traducteurs de Shakespeare, de Tchekhov. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est un métier. Et c'est notre travail, c'est aussi notre travail. Nous sommes des gens de l'ombre, c'est-à-dire que si on sent que le texte est traduit, on a mal travaillé. Mmh. Voilà.
Mais ça donne lieu à une scène très drôle dans un restaurant. Peut-être vous pouvez la raconter.
Oui, elle se retrouve dans un restaurant invité. Son auteur qui arrive, qui ne parle pas français, face à un éditeur qui ne parle aucune langue étrangère. Et donc, elle doit faire la traduction. Et elle se retrouve donc à traduire quand l'un parle en hébreu. Enfin, la langue n'est pas citée, mais je cite quelques phrases en hébreu. Donc, ceux qui comprennent... reconnaissent tout de suite la langue. Donc quand l'auteur parle, elle traduit à l'éditeur, et quand l'éditeur parle, elle traduit à l'auteur. Alors l'un et l'autre peuvent manger quand l'autre parle, mais elle parle tout le temps. Donc elle n'a absolument pas le temps de manger, et donc elle se retrouve à la fin du repas avec ces deux messieurs très importants qui attendent qu'elle mange. Évidemment, elle ne peut pas manger, et quand arrive l'attaché de presse, alors là par contre elle parle tout le temps, sauf à la traductrice.
C'est une métaphore de la condition.
Ça me semble représenter vraiment notre rôle. Voilà, on est là quand on a besoin de nous. Et puis voilà, après, l'existence est beaucoup plus compliquée.
Alors vous, vous allez plus loin dans cette pièce, puisque vous allez jusqu'à, votre personnage va jusqu'à, de certaine façon, tuer symboliquement l'auteur. Alors on n'en dira pas plus, mais il y a quelque chose de ça, qui doit être la tentation à un moment donné de tout traducteur, d'être à sa place et de recevoir un petit peu, d'être un peu en pleine lumière sur la scène, justement. Alors cette tension dans votre spectacle, entre ces deux positions, elle est représentée par un personnage hybride de fourmi-mouche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un peu à la fois votre double et votre, je sais pas, âme d'année un petit peu
C'est-à-dire que ça m'est venu vraiment pendant l'écriture. Hein. Je n'avais pas du tout pensé à cette image. Mais en fait, le travail de traducteur est un travail de fourmi. On avance vraiment, c'est un mot et encore un mot et encore un mot. Et puis, il faut vraiment être rigoureux, précis. Enfin, vraiment, tout de suite, l'image de la fourmi m'est venue en pensant au travail de traduction depuis très, très longtemps. Et puis avec mon besoin irrépressible d'écrire, les pattes de mouche sont venues aussi tout de suite. Et du coup, je me suis dit, je ne suis pas une fourmi, je ne suis pas une mouche, mais en fait, je suis les deux. J'essaye d'exister effectivement à la fois en traduisant, ce qui prend énormément de temps, et à la fois en écrivant. J'avoue que si j'arrivais à ne pas écrire, je pense que je serais beaucoup plus heureuse. Mais je ne peux pas ne pas le faire. Donc voilà, la fourmi-mouche, ce qui est assez incroyable parce que vraiment la métaphore est venue de là. Et puis après, quand j'ai continué à écrire et que j'ai continué à écrire et qu'à un moment donné, cette traductrice bascule complètement, perd pied parce qu'elle a fait vraiment cette grande faute qu'elle n'est pas capable d'assumer, tout à coup, le passé revient, mais de manière extrêmement violente. Et quand j'ai écrit cette phrase, il tue les innocents et les coupables. Après les avoir... Il jette dans le feu les innocents et les coupables après les avoir tués à l'insecticide. Et tout à coup, je me suis dit, mais attends, tout ton texte, tu te dis fourmi-mouche. Et ça m'est revenu, mais comme une immense claque. Et pour moi, c'est peut-être la phrase la plus importante de tout le spectacle. On vit, on avance, on travaille, voilà. Et tout à coup, mais au détour de quelque chose qui... Vraiment, ce passage, je ne m'y attendais absolument pas. Je savais qu'elle allait perdre pied. Je savais que le passé allait remonter. Mais je me suis dit, mais attends, il y a l'insecticide et il y a la métaphore que tu utilises, tout le spectacle. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, ça me questionne énormément. Et c'est là que je dis, on trempe la plume dans du poison, on ne s'en rend même pas compte. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser.
Il y a la question aussi, derrière la question de la traduction, celle de la Shoah comme indicible, en fait, comme intraduisible. Traduire, c'est aussi comment traduire des émotions, des sentiments. Et il y a cette phrase justement à propos de la fourmi, vous dites sur scène « Que traduire est confortable, un autre vous guide et vous n'avez plus qu'à mettre vos pieds dans ses pas. La fourmi sait toujours où elle va et elle ne revient jamais les mots vides. » Et d'une certaine façon, l'enjeu de la pièce c'est ça, c'est de trouver les mots finalement.
Absolument, absolument. En fait, tout le processus, si on essaye d'analyser, et ça aussi c'est des choses que j'ai comprises, presque a posteriori. Mais en fait, tout ce texte est aussi un texte en train de s'écrire. Parce que pendant tout le spectacle, il y a des éléments. Il y a tout à coup, on parle effectivement de fourmi-mouche qu'on retrouve après. On parle de robe à fleurs vaporeuses qu'on retrouve après. On parle de ceinture cloutée qu'on retrouve après. Tout ça finit par donner un personnage. Un personnage de roman qui est en train d'être écrit. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites comme ça. Et puis, effectivement... Plus on essaye de mettre des mots, enfin c'est ce qui me semble, mais de nouveau, on est dans une place, nous c'est vraiment la deuxième génération, dans une place, alors là pour le coup, extrêmement inconfortable, et encore le mot est vraiment ridicule, on a hérité d'un chagrin et on n'est pas légitime. Alors comment trouver les mots? Et pourtant, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui pour quand même... témoigner, je sais pas, j'ai du mal aussi parce qu'on m'a parlé de devoir de mémoire et pour moi, dès qu'on met devoir et mémoire ensemble, je me dis, mais mon Dieu, on a perdu, c'est pas du tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, bon, on arrive bientôt, un jour, il y aura plus de survivants directs. Donc c'est nous. Alors ils nous ont transmis quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça, c'est une chose, à mon avis, dont on n'arrivera jamais à se débarrasser, c'est du poison parce que quand on commence à rentrer dedans, on est happé, on est vraiment happé par quelque chose. Alors heureusement que j'ai une famille qui est qui sont des juifs de l'autre côté, c'est-à-dire qui n'ont pas vécu la Shoah et qui me ramènent chaque fois. Mon mari me retire chaque fois en me disant attends là, stop, ça suffit.
Il faut préciser que cette pièce c'est une affaire de famille puisque votre mari qui est metteur en scène, enfin qui a été metteur en scène en Israël et qui est aujourd'hui peintre. J'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'il fait, j'ai une parenthèse. Donc a signé la mise en scène et vos fils...
La musique. Absolument. Ça aussi c'était, alors dès le départ en fait, la c'est compagnie... Important pour vous, absolument, ça. La compagnie s'appelle la compagnie Bessa. Et le mot Bessa vient de l'araméen, qui vient de Bait, c'est-à-dire maison. Et c'était un peu l'idée, c'était de faire une compagnie de théâtre en famille, mais en famille élargie, c'est-à-dire la famille, puisque nous avons des artistes à la maison, et puis les amis qui vont travailler avec nous, et on travaille avec les mêmes personnes depuis le début. Alors on est la famille à l'africaine aussi. Voilà, et oui, ça c'est très très important, cette notion est très importante, et je pense que pour la bonne santé, ma bonne santé en tout cas, j'en ai énormément besoin, j'ai besoin de me sentir entourée, et puis j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, bon, regarde, il y a autre chose, parce qu'on peut basculer très très vite.
Alors on va quand même les citer, parce que souvent au théâtre, il n'y en a que pour le personnel, l'acteur principal. Alors la mise en scène, donc la scénographie, c'est Nafi Salah, la musique originale, Meir et Yaakov Salah, donc vos deux fils.
Et puis on peut citer les Lumières,
également, Pascal Noël pour les Lumières et Esther Marty
Couillaté
pour les costumes.
Voilà, parce que je suis seule en scène, mais seule en scène, c'est toute une équipe derrière.
Oui, et puis il y a tout un travail de, on pourrait dire, d'effeuillage, en quelque mm-hmm. sorte, vous vous déshabillez progressivement.
Doucement.
Oui. Vous n'allez pas, effectivement. Mais...
Oui, c'est une recherche, c'est une tentative, c'est vraiment, c'est tout notre travail de théâtre. C'est une tentative pour aller à l'essentiel. Et le travail de Nafi Salah, de la mise en scène, est toujours de rechercher les purs. Donc on a essayé, voilà, avec le minimum de moyens, d'évoquer un maximum de choses.
Vous... À un moment donné, dans la pièce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous perdez pied. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, nous-mêmes, on perd pied un petit peu le spectateur dans la salle. On se dit, mais où est-elle? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Enfin, on comprend qu'il se passe quelque chose. Il y a comme un trou noir. Et voilà, on ne sait plus où vous êtes, on ne sait plus où vous en êtes. Et la question que je me posais, c'est... Est-ce que maintenant, avec cette deuxième pièce et puis cette troisième qui est en préparation, est-ce que, quelque part, vous savez un peu plus où vous êtes, où vous en êtes par rapport à cette histoire ?
J'en sais de moins en moins.
C'est l'inverse, d'accord.
Oui. C'est-à-dire que, en revanche, j'ai pour le moment trouvé quelque chose qui m'aide à avancer tout de même. Mais ça fait partie de ces choses. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on est dans le noir. Et on découvre les trous noirs, on se rend compte à quel point on ne sait pas, on se rend compte à quel point on ne peut pas s'imaginer, et on se rend compte à quel point il faut le faire. Voilà, donc tout ça qui est très, extrêmement contradictoire. Voilà, j'espère, ceci dit, bon là, vraiment, la trilogie s'est imposée. Ceci dit, je vais écrire d'autres choses, j'ai aussi écrit d'autres choses, et la vie n'est pas que ça. Hein, bien évidemment, et donc je vais écrire d'autres choses liées à d'autres problématiques voilà, qui m'intéressent aussi.
Mais bon, il fallait faire un sort à cette histoire quelque part, et trouver les mots en tout cas, mettre les
chercher
mots.
Les mots, voilà, chercher les mots.
Réparer la faute d'impression, le mot manquant.
Oui.
Merci Laurence Androvitch. Donc votre pièce se joue actuellement et jusqu'au 11 octobre à la Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron, dans le 18e. Et vous venez aussi de traduire un roman de Zeruya Shalev, c'est ça?
De Zeruya Shalev, oui, absolument, voilà. Ce qui reste de nos vies. Je signale juste que c'est à 19h le spectacle.
Voilà, c'est à 19h les mercredis, jeudi, vendredi
et samedi.
Donc allez-y, Faute d'impression de Laurence Androvitch. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net.